Radio Okapi.
Obsèques mercredi de Chérubin Okengé, ancien ministre des Transports et député national. Nos reporters sur place vont nous décrire tout à l'heure l'ambiance qui règne à l'hôpital du Cinquantenaire et à la paroisse Notre-Dame du Congo où se passent les cérémonies. Situation toujours tendue dans le territoire de Djougou en Ituri. Hier mardi, des casques bleus de la MONUSCO en appui au FRDC ont déjoué les attaques de plusieurs villages de ce territoire. L'invité de ce midi, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Il a lancé une tribune sur son compte X avec 10 idées d'affaires qui peuvent marcher en Afrique avec un budget de départ de $500 américains. Bonjour à tous. Chérubin Okengé ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Ceux qui l'ont tué vont aussi subir le même sort après l'inhumation. C'est par ces mots qu'un représentant de la famille de l'ancien ministre des Transports et député national a prononcé l'oraison funèbre à l'occasion des derniers hommages rendus ce mercredi à Chérubin Okengé lors de la levée du corps à l'hôpital du Cinquantenaire en présence de plusieurs personnalités politiques dont le président d'Ensemble pour la République, Georges Oyema, a décrié la justice congolaise. Les autorités politiques et parlementaires desquelles la famille du défunt n'a reçu aucune compassion. Reportage de Jeff Ngoy.
Devant une foule immense, accompagnée de quelques moments d'animation du groupe folklorique Tetela, au nom de la famille de Chérubin Okengé, Georges Oyema prononce quelques mots sous l'effet de colère.
Nous sommes tellement énervés que nous devons dire, Chérubin Okengé, que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Tout le monde sait que Chérubin a été assassiné. Il n'est pas parti au marché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés.
Le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Denoné Bolenge Tengue, parle de l'héritage retenu du défunt, dont le courage et la détermination.
Comme héritage de notre frère, que nous allons assumer pleinement, primo, son sens du devoir et de la responsabilité. Dans un environnement politique où ceux qui font partie des élites de ce pays gèrent les biens communs comme s'ils étaient en train de gérer un butin de guerre.
La famille Okengé sollicite enfin une audience auprès du président de la République pour lui parler. Elle demande également au Conseil national de l'Ordre des avocats d'autoriser ses avocats à s'exprimer en toute liberté.
Après l'étape du Cinquantenaire, le corps de Chérubin Okengé est en ce moment même à la paroisse Notre-Dame du Congo où une messe de requiem est en cours. Retrouvons Paul Matendo qui est sur place.
La dépouille de l'honorable Chérubin Okengé est arrivée à la cathédrale Notre-Dame autour de 11h. Déjà à l'entrée, on peut lire des inscriptions telles que « Adieu honorable Chérubin Okengé, tôt ou tard, la vérité triomphera » ou encore « Nous continuons la lutte jusqu'à la tombée des politiques voyous et des magistrats pourris ». Outre la famille, plusieurs personnalités sont venues rendre un dernier hommage à cet illustre disparu. Je note entre autres la présence de Moïse Katumbi, président de l'Ensemble, Martin Fayulu Madidi, de l'UCIDE, et Jeannette Kabila, la jumelle de l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila. Dans une cathédrale débordée, l'office religieux est présidé en ce moment par le cardinal Fridolin Ambongo. Le programme prévoit le départ pour le cimetière après cette messe de requiem de la cathédrale Notre-Dame dans la commune de Lingwala, Paul Matendo, Radio Okapi.
Je l'ai dit dans les titres, en Ituri, les casques bleus de la MONUSCO en appui aux soldats des FRDC ont déjoué hier mardi des attaques de la milice Codeco dans plusieurs villages du territoire de Djougou. D'après des sources concordantes, à certains endroits, les assaillants ont ouvert le feu contre les soldats de maintien de la paix alors qu'ils allaient porter secours aux populations en détresse. Il s'agirait d'incursions en représailles à l'attaque du 18 mars dernier des éléments de la milice Zaïre qui avait coûté la vie à 8 personnes, dont 5 miliciens Codeco et des civils. Certains membres de la société civile dont la zone alerte la MONUSCO sur le risque d'escalade des violences. Le point avec Jean-Claude Loki.
À la suite de l'attaque du groupe armé Zaïre, mardi vers 10h, des éléments de la milice Codeco ont tenté de faire incursion en Gabo, un village situé dans les environs du site des déplacés de Ro. Alertés par les tirs d'armes, les casques bleus de la MONUSCO qui protègent le site et les militaires des FARDC ont aussitôt dépêché une patrouille de combat dans la zone, ce qui a contraint les assaillants à prendre la fuite avant de revenir 2 heures plus tard. Cette fois, les soldats de la paix ont riposté aux tirs de ces miliciens, indiquent nos sources. Toujours le même mardi vers 15h, les casques bleus ont été informés d'une attaque perpétrée par un groupe de miliciens de Codeco à Logo Takba et Tché. Sur place à Tché, les patrouilleurs ont constaté une forte présence des personnes déplacées autour de la base des FARDC. Les assaillants ont été repoussés par les forces loyalistes qui ont réussi à neutraliser certains dans les rangs de l'ennemi. Un convoi de la MONUSCO et FARDC est tombé 2 fois dans des embuscades de ce milicien alors qu'il se rendait à Logo Takba, heureusement sans faire de victimes. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Capi.
Toujours en Ituri, 2 personnes sont mortes et une autre grièvement blessée hier mardi au cours d'une embuscade tendue par des ADF sur le tronçon Bouakadi-Tchabi, centre au sud-est du territoire d'Irumu. Selon des sources locales, les victimes qui s'est trouvée sur 2 motos revenaient d'un lieu de deuil et s'est rendue au centre de Tchabi lorsque des assaillants leur ont tiré dessus. Des notables de cette entité coutumière parlent de 10e cas des tueries de civils enregistrés en l'espace d'une semaine dans cette chefferie limitrophe avec l'Ouganda. C'est qui, selon eux, pousse certaines familles retourner à fuir de nouveau vers des entités jugées sécurisées. Différentes couches sociales plaident pour l'intensification des opérations conjointes et FARDC armée ougandaise dans cette zone où l'ennemi s'est réorganisé après avoir été défait il y a une année par les 2 forces, ce qui avait permis le retour des milliers de personnes déplacées dans leurs entités grâce à l'accalmie. Au Nord Kivu, des affrontements opposent depuis tôt ce mercredi les rebelles du M23 au FARDC et groupes armés locaux dans les environs des Bihamwe. C'est sur l'axe Mushaki-Masisi Centre. Pendant ce temps, une accalmie précaire a régné toute la matinée dans la zone de Sakye. C'est après au moins 2 jours de bombardement des ennemis dans la région, causant des dégâts matériels et humains, entre autres différentes bases militaires. Bernard Danyangi.
C'est depuis 5 heures locales que ces accrochages ont éclaté dans les villages Bougouri et Kagundu, entre autres, indiquent certaines sources civiles locales. C'est dans la localité de Nyamirazo, un groupement Mufuni Matanda, à près de 4 kilomètres de Biambwe. L'armée congolaise et les groupes armés tenteraient de déloger les rebelles du 1-23 de ces villages, estiment les sources civiles dans la zone. Celles-ci ne fournissent cependant aucun bilan de ces combats, mis à part un mouvement de population signalé en direction du chef-lieu du territoire de Masisi, coupé de toute communication téléphonique depuis près d'un mois. Par ailleurs, la situation reste tendue et très volatile ce mercredi à Sake, groupement Kamuronza, dans le territoire de Masisi. C'est après 2 journées agitées dans cette zone, à la suite d'affrontements violents entre les rebelles du M23 RDF et l'armée congolaise, soutenue par ses partenaires locaux étrangers. Hier mardi, plusieurs bombes larguées par les rebelles ont ciblé les sites de la base de la MONUSCO et celle de la force de la SADC à Mubambiro, faisant au moins quelques blessés légers parmi les travailleurs civils. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Toujours au Nord Kivu, le Conseil de la jeunesse du territoire de Lubero appelle à l'assistance des milliers de déplacés qui se trouvent dans la zone. Il s'agit des personnes qui fuient les combats entre les FARDC et les rebelles du M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Dans une déclaration rendue publique hier mardi, cette structure des jeunes dit s'inquiéter du retard observé dans l'assistance de ces déplacés par le gouvernement et les organisations humanitaires. Gustave Mouindo, vice-président du Conseil territorial de la jeunesse de Lubero, le dit au téléphone de Martial Papimukeba.
Nous observons un retard exagéré dans la réponse rapide au mouvement de la population, chose qui met en danger la vie des milliers de la population déplacée. Nous, Conseil territorial de la jeunesse de Lubero, nous recommandons au gouvernement de soulager les personnes en souffrance, en transe et de mettre hors d'état de nuire les terroristes du M23 et ses supplétifs, afin de permettre le retour de la paix et de la population dans la zone sous occupation. Aux organisations humanitaires, de mobiliser des moyens pour appuyer les gouvernements en venant en aide aux populations victimes à ces atrocités de guerre occasionnant les déplacements internes et les pertes à vies humaines.
Restons au Nord Kivu où au moins 50 000 ménages de déplacés qui fuient les combats entre les FARDC et rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru sont éparpillés dans plusieurs cités et villages du territoire de Lubero. La commune rurale de Kanyabayonga, située à la limite avec le territoire de Rutshuru, héberge le plus grand nombre de ces déplacés, environ 30 000 ménages qui ne bénéficient d'aucune assistance humanitaire, des sources administratives et de la société civile locale disent craindre une catastrophe humanitaire dans le territoire de Lubero. Radio Okapi fait un aperçu des besoins urgents de ces déplacés qui sont en majorité des femmes et enfants. Martial Papimoukeba pour les détails.
Les premiers besoins urgents, ce sont les abris. Si certains de ces déplacés sont hébergés dans des familles d'accueil, la plupart d'entre eux vivent dans des églises, les hangars des marchés et les écoles où ils partagent les salles de classe avec les élèves. Des conditions de vie qui exposent les femmes déplacées aux violences de toutes sortes, y compris à l'exploitation sexuelle. L'eau potable est un autre besoin urgent pour ces déplacés qui se trouvent à Kanyabayonga, Luofu, Mwavignoa et d'autres villages qui ne disposent pas des réseaux d'addiction d'eau potable, une situation qui expose ces milliers de personnes à des maladies hydriques. Avec l'afflux des déplacés dans les sites du territoire de Lubero, à ce jour, 14 aires de santé sur les 23 que compte la zone de santé de Kaina sont en passe de connaître une rupture des médicaments selon des sources sanitaires. Une situation qui risque de priver des dizaines de milliers d'enfants et de femmes enceintes de l'accès aux soins de santé primaires. Les vivres, notamment la nourriture, restent un autre besoin urgent de se déplacer à Lubero. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Ouvrons un autre chapitre à présent. Dans la province du Tanganyika, un vent violent a causé d'énormes dégâts lundi dans la cité de Kabalo. Des bâtiments et maisons d'habitation se sont soit écroulés, soit ont perdu leur toiture. Des arbres sont tombés et un bateau chargé des marchandises qui se trouvait au port de Kabalo a chaviré, rapporte des témoins. Reportage de Paul Amonanga.
Le vent violent a soufflé vers 18h de Kabalo pendant une dizaine de minutes, indiquent plusieurs sources locales. Les dégâts sont importants, témoigne un habitant de Kabalo, Alfred Assoumani.
Il y a eu les deux écoles que moi-même j'ai visitées, entièrement emportées. Il y a aussi des maisons d'habitation qui ont perdu une toiture, plus même d'une dizaine de maisons. Et le bureau de l'inspecteur principal provincial qui a perdu la toiture d'un côté parce qu'il y a un arbre qui est tombé dessus. Le bureau de la police sociale a perdu la toiture. J'étais aussi à la radio RCKL. 7 panneaux qui ont été endommagés. Il y a le pylône qui est par terre. La radio ne peut plus encore émettre.
L'administrateur du territoire de Kabalo renseigne qu'un bateau chargé de marchandises qui se trouvait au bord du lac Tanganyika a chaviré avec sa cargaison suite au vent violent. Il y aurait quelques disparus, indique l'autorité du territoire. Une enquête est ouverte pour avoir d'amples précisions, souligne l'administrateur du territoire de Kabalo. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Et puis une trentaine de maisons d'habitation ainsi que des pharmacies, des églises et bureaux endommagés et 4 blessés graves. Tel est le bilan provisoire des dégâts enregistrés au quartier Trois-Rivières après la pluie torrentielle abattue lundi sur la ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu. C'est le conseiller communal de Basoko, Degol Kabaka, qui livre cette information à Radio Okapi après des investigations sur terrain. Irène Bomaluzolo pour le reportage.
C'est dans l'après-midi de lundi 18 mars en cours que cette pluie torrentielle qui n'a duré que moins d'une demi-heure s'est abattue sur la ville de Bandundu, mettant en débandade la population du quartier Trois-Rivières situé dans la commune de Basoko, comme le témoignent ses habitants.
Dans notre quartier, les personnes sont en divagation. Il y avait des cris partout après cette pluie qui n'a duré que 25 minutes. J'ai vu des gens se promener, fuir le vent de la pluie.
Après cette pluie, plusieurs dégâts matériels ont été signalés dans ces quartiers, plus précisément sur les avenues Ndambu et Kinanga. Degol Kabaka est le conseiller communal élu de Basoko. Il dresse ses bilans provisoires.
On était sur terrain, vraiment il y a beaucoup de dégâts. On a évalué au moins dans un premier temps 35 maisons endommagées. Il y a des fois même toitures emportées et il y a aussi parmi les dégâts 5 églises endommagées. L'église de Branham, l'église de Nzambe Malam et quelques églises. Et il y a aussi 5 pharmacies endommagées et 2 bureaux de partis politiques.
Pour le moment, les familles sinistrées sont sans abri et lancent un SOS aux autorités tant urbaines que provinciales, ainsi qu'aux personnes de bonne volonté afin de leur venir en aide. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les médecins des hôpitaux publics du Kenya sont entrés dans le 7e jour d'une grève nationale. Au centre de leur colère, une série de revendications. Les grévistes exigent entre autres une couverture médicale complète pour les médecins, l'augmentation du salaire des bases des médecins et la réintégration des médecins suspendus.
L'invité.
10 idées d'affaires qui peuvent marcher en Afrique et en RDC avec un budget de départ de $500. C'est une tribune que lance le pasteur Marcelo Tounassi sur son compte X, ancien Twitter. La transformation, l'agriculture urbaine, la joaillerie artisanale, le service de nettoyage à domicile, le commerce en ligne, l'élevage de volailles et autres sont les activités citées par le pasteur Tounassi. Prêcher l'homme pour son épanouissement dans toutes ses dimensions, c'est la nouvelle vision de cet homme d'église dans ses prédications. Le pasteur Marcelo Tounassi de l'église La Compassion est notre invité. Pasteur Marcelo Tounassi, bonjour.
Bonjour.
Nous avons l'habitude de vous écouter sur des sujets qui sont de votre domaine pastoral. Mais là, nous vous voyons vous lancer dans un autre domaine, le domaine de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui peut expliquer cette sorte de changement?
Ça fait un temps, le Seigneur m'a mis à cœur de donner un message holistique. C'est-à-dire un message qui touche tous les aspects de la vie de l'homme, qui touche son âme, qui touche son esprit, qui touche son corps et sa société. Alors l'esprit est touché, sauvé, c'est vrai, la personne va aller au ciel, mais la personne doit se marier. Mais si se marier, va fonder une famille, il faut nourrir les enfants. Alors l'église n'est pas là seulement pour pousser les gens à aller au ciel, à se marier, mais aussi à bien vivre sur terre. Et comment on peut bien vivre sur terre? Il faut travailler, pas seulement prier. Alors pourquoi j'avais mis cette manière de gagner la vie, vous allez voir que j'ai parlé de $500, j'ai pas parlé de $10,000. Parce que tant quinois, j'ai remarqué que les quinois ont l'habitude de négliger les petites sommes. C'était pour leur dire que ce que vous dépensez dans des téléphones, dans des fêtes, des sorties, dans un parfum, peut vous sortir de la misère si vous savez gérer. Ne négligez pas les petites choses, parce que celui qui est fidèle dans peu de choses, Dieu lui confiera des plus grandes. Et aussi, vous savez, souvent quand on écrit un verset, les gens disent amen, quand on donne une prédication. Alors Dieu m'a dit, si tu les inspires dans le domaine spirituel, tu peux aussi les inspirer dans le domaine des affaires.
C'est aussi une sorte de révolte contre ceux qui sont dans la paresse. Quand ils ne trouvent pas de l'emploi, ils ne peuvent pas faire entreprendre.
Oui, vous savez, étant pasteur, ça les gens ne savent pas. Lorsque je reçois au moins 10 personnes au bureau, il y a au moins 7 qui me demandent l'argent. La plupart des temps, payer les études, payer le loyer, souvent payer l'hôpital. Et des fois, tu peux donner à quelqu'un un $500, un $300, mais après, tu vois qu'il revient encore te demander parce qu'il a considéré que c'était peu. Alors, je me suis rendu compte que nous, l'Église, nous avons cette grâce d'avoir tellement de gens qui viennent nous écouter dimanche après dimanche, mais si notre message est déséquilibré, nous allons engendrer des personnes déséquilibrées qui vivent dans la pauvreté et qui demain diront que c'est la faute des pasteurs parce que dans notre manière de présenter Christ, nous n'avons présenté qu'un Christ de l'esprit, mais pas un Christ social.
Travailler dur n'est pas incompatible à la prière.
À la prière. D'ailleurs, quand tu pries bien, Dieu va te dire de travailler. La première révélation que nous avons de Dieu dans Genèse 1, c'est quoi? Et Dieu créa. Créer, c'est travailler. Dieu se révèle dans Genèse 1 comme un Dieu travailleur. La Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. La Bible dit que celui qui ne travaille pas vit dans le désordre. La Bible dit que nous devons observer la fourmi, nous paresseux. Dieu se sert même de l'exemple d'une fourmi pour nous sortir de la paresse. C'est une insulte qu'on puisse me présenter la fourmi pour que je travaille. Donc le paresseux est moins qu'une fourmi. Bibliquement, ce que j'aimerais dire aux gens, quand tu as $500, ne considère pas ça comme une somme que tu dois dépenser, mais qu'une somme que tu peux investir.
Avec 500 dollars, on peut se lancer dans un business, mais il y a aussi des préalables. Par exemple, pour quelqu'un qui veut se lancer dans la production des jus, on a besoin d'un congélateur, on a besoin d'une centrifugeuse, on a besoin d'un mixeur. Est-ce que avoir seulement l'idée suffit? Et comment on peut s'en sortir si on est buté à ces genres d'obstacles?
Alors, souvent j'ai remarqué que les gens veulent faire grand du coup. Il faut faire petit et avoir de la confiance. Et cette confiance de quelques clients te permettra d'avoir plus d'argent. Mais une fois que ça commence à rapporter, là maintenant tu as grandi, tu cherches des grandes machines, tu cherches des frigos. Mais c'était vraiment pour que les gens commencent. Car si tu commences et tu es fidèle et tu sais garder quelques 10 clients qui parleront à 10 autres clients, un jour quelqu'un fera sa fête, il te dit, tu me livres des jus, j'ai besoin de 100 bouteilles de jus. Tu lui dis, ok, tu fais un pré-investissement, je me donne la moitié et je travaille puis je te donne. Et puis une autre fête, on va te découvrir. En soi, c'était que les gens comprennent que il ne faut pas créer des projets compliqués pour commencer. Il faut commencer des choses que tu peux vraiment faire, mais qui aient de la qualité, qui aient de la ponctualité, qui aient de la propriété de l'excellence. Garder d'abord, gagner un petit marché te permettra d'avoir un plus grand.
Pasteur Marcelo Tounassi, merci.
Merci beaucoup. Que Dieu bénisse et bénisse Okapi.
Merci.
Ainsi s'achève cette édition mise en onde par Jean-Claude Ntiala et supervisée par Élisée Chikota. Je suis Jocelyne Moussaopondé. Merci de nous avoir suivis.